starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French. On mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi. C'est arrivé aujourd'hui.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
C'est arrivé un 6 décembre, direction de l'année 1954. Simone de Beauvoir devient l'une des rares femmes à recevoir le prix Goncourt pour son œuvre « Les Mandarins ». Avec ce roman qui interroge l'engagement, la responsabilité et la place de l'écrivain, elle s'impose comme une figure incontournable de l'intellectuel d'après-guerre. Mais derrière cette consécration symbolique, le prix révèle aussi un paysage littéraire longtemps dominé par les hommes, où les autrices peinent encore à trouver leur place. Les explications d'Iléana Guillochon.
Ça s'est passé un 6 décembre 1954. Ce jour-là, Simone de Beauvoir devient la troisième femme à recevoir le prix Goncourt pour son roman « Les Mandarins ». Une consécration logique pour une écrivaine déjà engagée et installée dans le paysage intellectuel français.
L'Académie Goncourt, une véritable institution qui, depuis 72 ans, révèle les meilleurs écrivains français. Et cependant, combien d'auteurs aujourd'hui célèbres a-t-elle ignoré? De Mauriac à Monterland, de Céline à Green, de Barrès à Aragon, que d'oublis graves. Combien de batailles et de querelles le prix Goncourt a-t-il soulevé? Mais n'était-ce pas dans l'intérêt de la littérature?
Le prix Goncourt, c'est l'un des prix littéraires les plus connus en France. Créé en 1902, il est remis pour la première fois l'année suivante, et chaque année, ce sont les membres de l'Académie Goncourt qui choisissent le livre lauréat. À l'origine, tout part de deux frères passionnés de littérature qui mettent même leur propre argent pour fonder une académie. Leur idée est simple, permettre à 10 auteurs de vivre de leur plume. Aujourd'hui, le Goncourt, c'est devenu un prix surtout symbolique, mais qui reste très puissant. L'auteur ou l'autrice qui le remporte voit ses ventes exploser. Au début, les jurés recevaient une rente à vie de 6 000 francs et les lauréats repartaient avec 5 000 francs. De quoi permettre à un jeune écrivain de vivre 2 ans avec un salaire de fonctionnaire. Mais la dévaluation et l'inflation ont vite fait disparaître tout ça. La rente s'est envolée et la récompense s'est transformée en un petit chèque d'une cinquantaine de francs. Aujourd'hui, on parle même de 10 euros, une somme tellement symbolique qu'on la mettrait presque sous cadre plutôt que dans son portefeuille. Simone de Beauvoir, c'est une grande figure française. Elle est née à Paris en 1908 et y est décédée en 86. Écrivaine, féministe, elle appartenait à ce cercle de philosophes écrivains qui ont donné une vraie dimension littéraire à l'existentialisme. On la connaît surtout pour Le deuxième sexe, publié en 2 tomes en 1949, un texte à la fois très érudit et très engagé, où elle démonte ce qu'elle appelle le mythe du féminin éternel. Avec le temps, ce livre est devenu un classique incontournable de la littérature féministe. Et bien sûr, ce n'est pas la seule œuvre qui marquera sa trajectoire. À la sortie de la guerre, Simone de Beauvoir donne vie au personnage des Mandarins, un cercle d'intellectuels parisiens en pleine crise existentielle. Dans cette période incertaine, elle questionne l'engagement de l'écrivain, la responsabilité individuelle et le sens même de l'action politique. Elle tenait d'ailleurs à ce que son livre soit pris pour, je cite, « ce qu'il est », ni une autobiographie, ni un reportage, mais une évocation.
Eh bien, j'ai été stupéfaite du peu de place, en gros, que tient la politique, précisément chez les écrivains et chez les gens de culture, d'une manière générale. Je crois que presque toute mon époque, à de très rares exceptions, ne s'est pas engagée, n'était pas politisée, a commencé à se politiser vers 36 seulement, mais pas dans les années qui ont été celles de ma première jeunesse, enfin entre 29 et 40.
Et plus de 60 ans après leur parution, les mandarins n'ont rien perdu de leur force. Les questions que Beauvoir pose sur l'action politique et le rôle de l'intellectuel restent incroyablement actuelles. La place de l'écrivain dans la société, la difficulté de concilier écriture et engagement, les limites de la responsabilité individuelle, ce sont des réflexions qui semblent intemporelles. Les mandarins, ce n'est pas seulement un roman politique ou intellectuel, c'est aussi une histoire d'amour, d'amitié, une histoire de mœurs, bref, c'est une œuvre totale. C'est donc ce 6 décembre 1954 que le 51e prix Goncourt lui est attribué.
Fidèle à un demi-siècle de tradition littéraire, les Goncourt se sont mis à table pour décerner leur prix annuel. Les neuf parmi lesquels Francis Carcot, Roland Dorgelès, Pierre Macorlan, Philippe Héria et Armand Salacrou ont couronné les mandarins de Simone de Beauvoir qui demeura invisible.
Mais son absence à la cérémonie ne passe pas inaperçue. Elle ne se présente pas au restaurant Drouan pour recevoir son prix et la presse se montre plutôt sarcastique. Cette année-là, elle a choisi de fuir les photographes et l'agitation médiatique et elle a ses raisons.
Et puis je sais que je n'ai pas voulu jouer le jeu, ce qu'on m'a parfois reproché, puisque j'acceptais le prix, j'aurais dû accepter les interviews avec tous les journalistes qui voulaient m'interviewer. Je n'avais qu'un seul article, d'ailleurs, je me rappelle, c'était à l'Humanité Dimanche. Parce que comme le livre avait un côté assez anticommuniste, je voulais montrer en même temps que je n'étais pas de droite. Et là, j'ai donné ce seul interview à l'Humanité Dimanche. Ça, je me rappelle très bien. Oui.
Quelques années plus tôt, en 1943, son premier roman « L'invité », une réflexion fascinante sur l'existentialisme et la condition humaine, avait frôlé le prix, manquant la victoire de très peu de voix. À propos de cette récompense, Simone de Beauvoir confiera « À l'époque, j'avais l'âge de me plier à ce genre de rituel, mais cette fois je l'ai passé. » Le prix Goncourt est aujourd'hui considéré comme le prix littéraire le plus prestigieux de France. Pourtant, depuis sa création, seules 13 femmes l'ont reçu, soit à peine 10% des lauréats. La toute première, Elsa Triolet, qui en 1945 décroche le prix pour « Le premier accro coûte 200 francs ». L'Académie reste un cercle très masculin, et ce jusqu'à la composition du jury. En 1904, juste un an après le tout premier Goncourt, 22 femmes de lettres montent au créneau. Elles dénoncent la misogynie du jury, et leur réponse ne se fait pas attendre. Elles créent leur propre prix, le prix Femina, et décernent aussitôt leur première récompense. En 122 ans, le Goncourt n'a récompensé que 13 femmes sur une centaine d'auteurs au total. Un chiffre qui montre à quel point les romancières restent minoritaires dans ce paysage littéraire. Alors le 6 décembre 1954, quand Beauvoir reçoit le prix, ce n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est aussi l'arrivée d'une femme de plus dans un palmarès où elle se comptait encore sur les doigts d'une main.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et c'était Benjamin Biolay avec sa chanson « Le Penseur » en ce samedi sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
<t'->
starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le lac Saint-Clair est entouré par la zone de nature sauvage de Tasmanie dans le parc national de Cradle Mountain, est classé au patrimoine mondial et a été creusé par les glaciers pendant des millions d'années. Il est environ deux fois plus profond que le détroit de Bass, mais le lac le plus profond d'Australie n'a jamais été entièrement cartographié jusqu'à maintenant. Reportage de SBS News. Les scientifiques du CSIRO ont réalisé la première carte 3D du paysage sous-marin, confirmant l'immense profondeur de cette merveille naturelle. Au cœur de la nature sauvage de la Tasmanie se trouve donc le lac le plus profond d'Australie, le lac Saint-Clair. Des milliers de visiteurs s'y rendent chaque année, mais jusqu'à présent, son paysage sous-marin restait en partie un mystère. L'hydrographe Augustin Desplantes du CSIRO a récemment dirigé une équipe qui a cartographié le fond du lac pour la première fois.
When I saw that the deepest lake in Australia had never been surveyed with a multi-beam, I was very surprised, but I guess if it was easy to do, it would have already been done.
L'équipe a utilisé un sonar multifaisceau pour cartographier le fond du lac pendant 9 jours.
Basically, it's just as if we emptied the lake of its water and were walking around and were mapping it out. So I think it's going to be quite fascinating.
Leurs travaux ont révélé un paysage sous-marin jamais vu auparavant.
We can see the input of fresh water basically coming into the lake from the mountains. And it's carving through the lake floor. So we have this waterfalls basically coming down into the lake and then, you know, reaching the cliffs. It's pretty incredible to look at. And you can see the trees as well sometimes overhanging these areas. It's quite spectacular.
Michael Quaggan gère un chalet à l'extrémité sud du lac depuis près de 20 ans.
Personally, I would describe the lake as my church. It is the most peaceful place on this planet. And I may be biased, but so many other people are saying the same thing. Visually stunning, never the same 2 days in a row. The most phenomenal place to swim because it's, as I said, it's the cleanest air and this cleanest water in the world.
Il conserve derrière le bar une bouteille de gin spéciale qui a été immergée au fond du lac il y a quelques années par une autre équipe de chercheurs.
Just for giggles one night, I said to them, would you take a bottle of gin, put it on the bottom of the lake and take a photograph? And they're like, yeah, sure. So I'm like, okay, great. So they did.
Elle n'atteignait pas le point le plus profond, mais elle dépassait tout de même les 100 mètres de profondeur.
They did the best they could, but they brought the bottle back and it just sits behind the bar. It's now been depth tested. I think that was about 120 meters.
Augustin Desplantes affirme que la cartographie montre que le point le plus profond du lac Saint-Clair est à environ de 163 mètres.
So it's about towards the south on the western side, just in the corner basically. We can almost see the glacier would have really like, you know, grinded through that corner.
Plus près des côtes, un navire télécommandé, Lotta, a complété la cartographie. Il était piloté par le docteur Wei Sheng Lim, ingénieur de recherche en système autonome.
We can go really shallow into regions like less than 2 meters, even less than a meter as well, as long as there's no like hidden rocks or anything underneath the surface. So those are the areas where the big vessel won't be able to get to.
Lotta a révélé des zones proches du rivage présentant des dénivellations abruptes.
What we are trying to do is like mapping the shallow region so you can actually see how the contour changes on the shoreline, and you'll see how quick the depth actually drop from the shoreline like all the way down to 50 meters. Like you can see a meter here, and then next moment you're in a 10 meter zone, and next moment you're already in like 30 meters, 50 meters deep.
OTA peut également fonctionner de manière autonome en suivant un parcours précis et pré-planifié.
One of the most useful features is we'll be able to autonomously finding those gaps and finding the best way to cover those missing gaps in our data set.
Les données détaillées recueillies seront rendues publiques, présentant une ressource importante qui, on l'espère, alimentera de nouvelles études sur le lac Saint-Clair. Elles incluront notamment des informations sur ce qui pourrait se trouver dans les profondeurs, selon Augustin Desplantes.
No wind monsters yet. We'll have to send a camera down to make sure the deepest point, make sure nothing's lurking there.
Ce reportage de SBS News de Karen Thomas, présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Juste après la foudre, quand l'orage a cessé, cette odeur de poudre fait encore le danger. Fin de parcours, faudrait être givré, aveugle et sourde pour encore plonger. Le compte à rebours. À présent,
Vanessa Paradis, la voix si symbolique de Vanessa Paradis en ce samedi sur Radio SBS. Et on l'espère, en tout cas, cette chanson prémonitoire, le retour des beaux jours sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. On parlera de littérature francophone dans le Pacifique, tout de suite après ça.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français, on va parler de littérature française francophone dans le Pacifique avec Titawa Porcher. Bonjour, docteur Titawa Porcher. C'est bien Bonjour. Ça?
Oui, c'est bien ça.
Alors, vous avez fait le voyage jusqu'en Australie, jusqu'à nous, pas que pour nous parler. Hein, il s'est passé beaucoup de choses et il va se passer beaucoup de choses pendant votre séjour ici en Australie. Tout d'abord, la littérature francophone dans le Pacifique, ultra important. Mais la question, pourquoi c'est tellement important pour la survie de la langue dans la région?
Alors, la survie de la langue dans la région, oui, et puis le fait de connaître, en fait, des territoires dont on ne sait pas grand-chose, finalement. Et moi, je suis là aussi pour ça, pour faire connaître ces territoires, pour faire savoir qu'il y a une littérature dans ces territoires, parce qu'elle porte, en fait, l'identité des entités géopolitiques qui écrivent. Et donc, comme ce sont des territoires qui sont de tradition orale, ce sont en fait, c'est aussi une mémoire en fait de ces territoires qui s'écrit en français. Et je trouve que c'est beau justement qu'il y ait cette rencontre entre la langue française et ses identités autochtones.
Alors le Pacifique, c'est énorme, on le sait tous, on a tous fait nos cours de géographie à l'école, mais cette francophonie dans le Pacifique, elle est présente à plusieurs endroits, la Polynésie, vous l'avez dit, la Nouvelle-Calédonie aussi, il y a d'autres endroits, il y a Vanuatu, enfin expliquez-nous un petit peu où sont les points d'ancrage, je fasse attention à mon français avec vous, où sont les points d'ancrage donc de la francophonie dans ce Pacifique ?
Dans ce Pacifique qui est majoritairement anglophone, comme vous le savez, il y a quatre territoires, quatre entités géopolitiques qui font du français leur langue officielle ou l'une de leurs langues officielles. Alors vous connaissez bien la Nouvelle-Calédonie ou la Kanaky puisque vous êtes assez proche de ce territoire. Donc il y a la Polynésie française, il y a aussi le Vanuatu qui est un petit territoire où il y a 105 langues vernaculaires. Donc ça fait l'une des densités linguistiques les plus importantes au monde par rapport au nombre d'habitants.
Et qui a un héritage qui était à la fois anglophone et francophone, beaucoup quand même.
Absolument, c'était un condominium, c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait à la fois l'Empire britannique et la France qui opéraient conjointement leur gouvernance. Et donc il y avait deux administrations parallèles et donc aussi deux langues officielles. Donc on a comme langue officielle au Vanuatu, le français, l'anglais et le Bichlamar, qui est finalement la langue qui va fédérer tout le monde, puisque sur ce tout petit territoire, finalement, d'une vallée à une autre, on se comprend pas. Donc c'est le Bichlamar qui un des rares territoires à avoir un créole comme langue officielle également. Donc on a un Pacifique qui est absolument passionnant.
Ouais, tout à fait. Et plus on s'approche et plus on s'intéresse à la question, plus on s'aperçoit que c'est dense. C'est d'une densité incroyable. Les histoires entre guillemets, et je mets des grandes guillemets là, mais les histoires polynésiennes sont-elles vraiment différentes des histoires mélanésiennes, des histoires des autres endroits dans le Pacifique? Au final, c'est une sorte de similitude.
On va avoir, notamment dans l'imaginaire, parce que moi je travaille beaucoup, mon champ de recherche, c'est le corps, le corps océanien. Et donc, dans l'imaginaire du corps, il va bien sûr y avoir des similitudes. Il y a une façon de s'envisager, d'envisager son être au monde quand on est océanien. Le lien, par exemple, avec le cosmos, se fait sous forme de continuum, en fait. Il n'y a pas de limitation comme il peut y en avoir dans une vision européenne post-Descartes. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme et le monde sont tissés dans la même trame vivante. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tout le Pacifique.
Cette notion du corps, vous l'exprimez, elle est importante parce qu'elle se traduit par des tatouages, elle se traduit mais notamment, elle se traduit aussi dans la littérature, dans les écrits. C'est la représentation du corps ?
Ah oui, complètement. C'est la représentation du corps. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc, dans le mythe originel, le mythe cosmogonique qui construit le monde selon les Polynésiens, Taharoa, qui est le dieu créateur, en fait, tourne dans son œuf pendant vraiment un temps infini, jusqu'à ce qu'il casse sa coquille et qu'il forme le monde, en fait, à partir de son corps. Donc, il va se démanteler, il va prendre sa colonne vertébrale pour faire les montagnes, il va prendre ses ongles pour faire les carapaces des tortues, par exemple. Et donc, ce mythe, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'à l'origine, il n'y a pas de distinction entre le corps et la trame du monde autour de nous. Eh bien, on va le retrouver, alors, dans, par exemple, L'île des rêves écrasés, qui est le premier roman tahitien écrit en français, 1992, écrit par Chantal Spitz. On voit les personnages, par exemple, qui font un rituel qui se fait toujours à Tahiti. Je ne sais pas si ça se fait ici encore dans les tribus aborigènes, mais on enterre le placenta de l'enfant qui vient de naître. On l'enterre et on plante un arbre là où l'a enterré pour marquer justement ce continuum. C'est-à-dire que finalement, ce placenta qui a nourri l'enfant, il va continuer de le nourrir plus tard quand il sera adulte. Et dans l'île des rêves écrasés, par exemple, on a ce rituel qui est vraiment représenté. Les personnages enterrent le placenta et le texte glose en parlant d'un immortel enracinement du ventre, c'est-à-dire qu'on est vraiment lié à la terre, on est lié à la terre par les entrailles. Les entrailles étant dans l'imaginaire océanien le seuil des émotions, c'est pas le cœur, c'est vraiment les entrailles.
Et donc du coup, après la mort, il y a un retour, quand on parle du retour à la terre, c'est aussi un retour à ce placenta originel.
Complètement. Il n'y a pas de lien. De toute façon, il n'y a pas de. La mort est juste un autre état. Je parle également dans... Il y a un arbre qui est assez symptomatique, qui est le banyan, qui apparaît dans toutes les légendes et dans tous les contes et tous les mythes. Le banyan, je ne sais pas si vous en avez beaucoup en Australie.
Non.
Donc c'est un arbre en fait qui a cette particularité d'avoir des branches qui poussent, qui touchent le sol et qui font en fait des racines et qui vont repousser. Donc c'est une espèce de palingénésie, de mouvement continuel de renaissance. Et je pense que James Cameron qui a fait Avatar en fait, qui s'est beaucoup intéressé d'ailleurs au Pacifique, a dû se nourrir de cet imaginaire quand il a imaginé cet arbre dans lequel finalement les personnes peuvent être en contact avec les ancêtres. Parce que dans l'imaginaire océanien, c'est vraiment ça. Dans un mythe kanak, par exemple, Teakanake, qui est le premier homme, va s'enfermer dans le banyan pour partir à la rencontre des ancêtres. Et donc, vous voyez, cette consubstantialité, elle est à la fois au moment de la, quand on vit, mais également dans ce continuum avec la mort et avec les ancêtres. La dimension, la place des ancêtres est absolument essentielle.
Alors moi, j'ai une question qui était d'ailleurs dirigée par ma fille. Il y a Moana, Vaiana, en français. Moana, si vous avez vu le film ici en Australie ou dans le monde anglophone. Comment ça a été votre réaction quand c'est sorti ce film? Parce que ça touche à pas mal de spiritualité. Est-ce que c'est une chose qui est bien parce que ça ouvre cette spiritualité vers un monde qui connaît peut-être pas cet accès-là? Et je pense par rapport à la France, hein. En France, le Pacifique, c'est un trou noir. On n'en parle pas, on en parle à peine et quand on en parle, c'est pas forcément en bien. Donc, est-ce que avoir des compagnies comme Disney qui ouvrent et qui mettent un peu un accès, même si ça prend des raccourcis, c'est un bien, c'est un mal? C'est quoi pour vous, à vos yeux d'autrice et de docteur?
Moi, j'ai été sous le charme. Moi, j'ai
adoré. C'est un très beau film, hein,
c'est beau, il faut le dire, c'est beau. Et puis, la grand-mère, comme ça, qui est là. Enfin, je trouve qu'il y avait des choses qui sont justes, en plus. La place des ancêtres, la place des aïeux, la place de la grand-mère qui va conduire la petite fille vers ses ancêtres.
Il y a de la profondeur. Hein. Si on connaît un peu l'histoire, il y a énormément de profondeur, en fait.
Absolument. Alors moi, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Hina, Maui et compagnie, mm-hmm. et qui va faire intervenir, alors, de façon moderne et un peu burlesque, le personnage de Maui, qui est dans le dessin animé. Et Maui, par exemple, c'est un dieu qui est très important dans l'imaginaire océanien. C'est un dieu constructeur, puisque c'est celui qui a ralenti la course du soleil. Puisque le soleil allait beaucoup trop vite, donc Maui ralentit la course du soleil. Et il est présent là. Alors bien sûr, il est présenté de façon humoristique, il a une personnalité. On sent bien sûr l'empreinte américaine. Hein. Mais moi, j'ai eu des yeux d'enfant quand j'ai vu ce dessin animé. Et je dois dire que j'étais assez sous le charme.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
On savait que c'était fini, on est quand même parti loin des gens, loin de Paris. Est-ce qu'on sera plus joli? Se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit. Ce monde est pas poli, t'étais le seul gars gentil. Poussière sous le tapis, café à refroidi, amour à refroidi. Je crois qu'on s'est tout dit, on s'est pas vu s'affaiblir. C'est facile de se mentir, on se croit toujours solide jusqu'au jour de la collision. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais?
C'était Marguerite avec sa chanson « Les avions » en ce samedi. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Quoi de mieux pour découvrir l'Australie que de prendre la route? Entre les vastes paysages, les tartes fraîches des boulangeries de campagne et les observations inattendues d'animaux sauvages, les road trips offrent une vision plus approfondie du pays qu'un simple vol jusqu'à votre destination. Même si vous avez déjà fait des road trips ailleurs, l'Australie présente ses propres défis. Voici comment vous préparer, rester en sécurité et profiter au maximum de votre voyage. Un reportage de SBS Examines. L'Australie est immense, vraiment immense. Et parfois la meilleure façon d'en saisir l'ampleur est de la traverser en voiture. Lara Piccone, journaliste de voyage, affirme que les road trips offrent bien plus que de magnifiques paysages.
There's so many rainforests, desert, coastal hamlets, islands. You really get a sense of all the different terrains and geography in Australia. And I think you're interacting with locals, so you're starting to build a bigger picture about what Australia is.
Avec une telle ampleur, il est nécessaire de planifier à l'avance. Certaines zones sont isolées, sans réseau téléphonique ni station-service sur de longues distances. Assurez-vous de bien vous renseigner sur votre itinéraire et de vous inscrire auprès d'un service d'assistance routière avant de partir. James Williams, Head of Policy au RACV, indique qu'il y a quelques éléments essentiels à conserver dans votre voiture.
So make sure you have, for example, a first aid kit. Make sure you have an atlas. Lots of people don't have road atlases anymore, and they rely on their phones. But of course, in Australia, you might not necessarily have connection to the internet. So think about that. Think about the fact that you will be potentially in a remote or regional area, and therefore you have to be, as I said, self-contained. So take plenty of water, snacks, food, and of course also what we would call safety equipment. So things that you might need to, say, for example, jack up the car, change your tire, make sure you've got a spare tire.
Si votre voiture tombe en panne et qu'il n'y a pas de réception téléphonique, James Williams conseille de rester près de votre véhicule.
And the reason for that is quite simple. It's easier to find a car than a person if you're lost. And of course, with the car comes everything you've got in the car, like your first aid kit and your water and everything else that we talked about earlier. Ideally, you would wait for someone to drive by, wave them down and ask them for assistance and ask them to call emergency roadside assistance when they have reception, when they drive on.
Soyez toujours attentif à la faune lorsque vous conduisez en campagne, en particulier aux kangourous. Évitez de conduire à l'aube et au crépuscule lorsqu'ils sont les plus actifs. James Williams affirme qu'une collision avec un animal sauvage peut être mortelle.
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife, that you slow down. If you see an animal, be particularly careful. If you are in an area where you think you will hit a kangaroo and it's likely to happen, it's very important you don't swerve, that you apply the brakes as quickly and firmly as you can, release the brake, but don't swerve because, of course, that could mean that you hit a tree or an oncoming traffic, and that's a worse outcome.
Si vous heurtez un animal, rangez votre véhicule prudemment. Vérifiez que tout le monde va bien. Et si l'animal est blessé, appelez l'Agence de protection de la faune de l'État. Les conditions de météo en Australie peuvent également avoir un impact sur les conditions des routes. James Williams rappelle aux voyageurs la vigilance, notamment en cas de conditions extrêmes, en été et en hiver.
In summer, the issue is primarily bushfires and extreme heat. Heat can have an impact on batteries, particularly if you're driving an electric vehicle. But also, of course, the risk of bushfire is significant. Always be across the emergency weather app in your local state or territory. Keep up to date with any events. Fires move extremely quickly. Crossroads, of course, and different terrain. In winter, it tends to be issues around frost, black ice, and generally cold and wet weather and visibility issues.
Le code de la route est globalement le même dans tout le pays, mais il est conseillé de vérifier les différences entre les États avant de prendre la route. Pour Lara Piccone, les road trips révèlent aussi la diversité culturelle de l'Australie.
If you're in Darwin, for example, that's really a multicultural city, and there's a lot of Asian influence. It's almost like an Asian city. You go down to the Mindel Beach markets at nighttime and watch the sunset and get all those beautiful food, all the way down to like the interior of the outback, where it's really very typically Australian You've got your beautiful outback pubs. So it's a really good way to start to unravel the various cultures in the country.
Où est-ce que les Australiens aiment-ils s'arrêter en chemin? Eh bien, pensez aux boulangeries de campagne, aux petites villes, aux pubs, aux stands des fermes et aux campings. Lara Piccone affirme que les activités en plein air sont incontournables.
It's really just about getting out in nature for a lot of people. So hiking and fishing, wild swimming on the Gibb River Road. Like there's lots of beautiful water holes, Bell Gorge, where you can swim in this incredibly remote, rocky pool. No crocodiles there. But of course, you need to be careful of that if you're anywhere around the top of Australia.
Pour les débutants des road trips, Lara Piccone suggère ses options.
There's the Great Ocean Road down in Victoria, which is a beautiful coastline to travel. There's also the Pacific Coast, which kind of goes from Brisbane to Sydney, and there's lots of beachy towns along the way. Tassie is a great spot for a road trip because it's not very big. It's like a European country. You only need to be driving for 2 hours at a time to see some different landscapes.
Ou si vous vous sentez plus aventureux,
the big ones are like your Cairns to Cape York or your Gibb River Road in the Kimberley in Western Australia, which is incredible, quite intrepid. So you need to have a four-wheel drive and you need to know what you're doing. But there are some of the really cool ones. Also along the Murray River, where you can stop and do a bit of a kayak, is also a beautiful one. There's just so many.
Pour plus d'inspiration, visitez Tourism Australia ou le site web officiel du tourisme de votre état ou territoire, qui ont tous des pages dédiées aux road trips. Abonnez-vous ou suivez le podcast Australia Explained pour plus d'informations et de conseils en Australie. Si vous avez des questions ou des idées de sujets, envoyez-nous un email à australiaexplained@sbs.com.au.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait un regard. Comme c'est beau. Les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Et c'était Feu Chatterton et leur chanson Le Labyrinthe en ce samedi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.